Notre invitée prétend ne pas aimer la chanson et pourtant elle est depuis 30 ans l'une de nos plus grandes chanteuses françaises. La Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, la fameuse SACEM, lui a d'ailleurs décerné le Grand Prix de la chanson en 2016. Bonjour Juliette.
Bonjour Caroline.
Bienvenue dans ces matins du samedi. On vient d'entendre, on va parler de votre chanson à vous, mais on vient d'entendre dans les envies du week-end une chanson de The King's Singers. Je crois que vous les aimez beaucoup, les King's Singers.
Oui, absolument. Je les ai même vus en concert en Belgique d'ailleurs. Et je suis très fan parce que ce sont des gens qui sont d'abord d'immenses chanteurs avec une cohésion de groupe vocale qui est assez exceptionnelle. Et puis, ce sont des gens qui viennent de la musique baroque et de la musique classique. Et qui ont eu cette curiosité cette intelligence de se mêler aussi des musiques qui ne les concernent pas, a priori, donc de la chanson, y compris de la chanson française.
Ils ont fait quelques reprises, l'entendre.
Absolument. Qu'ils ont fait quelques reprises. Alors là, c'est le plaisir d'amour de Martini, donc c'est un grand classique. J'adore parce qu'ils ont un accent délicieux quand ils chantent en français. Et ils avaient repris des chansons de Jacques Brel, dont La valse à mille temps, d'ailleurs, dans un arrangement absolument
c'est osé.
Formidable. Oui. Puis alors, en plus, la chanson n'est pas facile, même pour quelqu'un qui est francophone. De naissance, on va dire, parce que c'est une chanson avec un débit, et ils s'en sortent merveilleusement. Enfin, c'est assez étonnant. Et puis surtout, cette idée d'être des gens qui chantent de la musique baroque, classique, sérieuse, machin, et tout ça, et puis de temps en temps, aller faire des incursions dans la chanson, dans les Beatles, dans les choses comme ça, c'est assez. Et c'est toujours très très bien, en fait, voilà. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est toujours très bien.
Vous avez encore quelques années, malgré tout, avant de les rattraper, puisqu'ils fêtent leurs 50 ans de carrière. Vous, ça n'est que 30 ans, mais c'est pas mal
gamine.
Déjà, 30 ans, oui c'est ça, un peu gamine quand même. 30 ans de carrière, ça se fête, vous êtes fière, vous êtes nostalgique, vous êtes dans quel état d'esprit au bout de 30 ans de carrière ?
Je suis fière, certainement. Nostalgique, non. Parce que nostalgique non parce que c'est vachement intéressant ce qui se passe tous les jours, tout le temps, en avançant dans le temps. J'ai pas de nostalgie en me disant j'ai la nostalgie que tout le monde a en regardant ses 20 ans, quoi, parce qu'on est un peu nostalgique de ses 20 ans, mais pas forcément de cette époque de fabrication, parce qu'on est en train de se fabriquer finalement. Donc je suis pas de nostalgie particulière, c'est bien, je me suis bien plu à faire ça, et puis d'avancer. Et effectivement, assez fière d'avoir tenu le coup pendant 30 ans, quoi.
Vous sortez un 13e, 14e,
à peu près.
Une petite quinzaine, on va dire, d'albums à votre actif. Donc un 13e ou 14e album qui s'intitule « J'aime pas la chanson », on reviendra bien sûr sur ce titre. Le disque est sorti hier, donc journée importante, puisque c'était la date de la sortie de ce nouvel album. Mais c'était aussi hier soir, la soirée des Victoires de la musique. Vous-même en avez obtenu une, Victoire de la musique, en 2006, si je ne m'abuse. Vous avez été la meilleure artiste interprète féminine de l'année. Pour quelqu'un qui n'aime pas la chanson, dites-moi, vous regardez ces Victoires de la musique année après année ?
Alors, il se trouve que quand je suis en concert, non. Et ce qui était le cas hier soir, donc effectivement, je n'ai pas regardé. Ça m'arrive de jeter un œil dessus, ne serait-ce que pour me tenir au courant de ce qui est un peu dans l'air du temps, ce qu'on écoute, ce que les gens aiment, etc. Après, vous dire que je suis à 100% convaincue par les Victoires de la musique, des trucs qui me gênent un petit peu, c'est l'absence de certaines personnes à ces Victoires de la musique, de ces classifications que je trouve un petit peu maintenant, je veux dire, faut passer à autre chose que musique urbaine. Je veux dire, ça y est, maintenant le rap, le hip-hop, ce sont des formes d'expression entièrement actuelles, culturellement vivantes, intéressantes, mouvantes, évoluantes, etc. Voilà, donc je suis un petit peu dubitative sur le côté est-ce que c'est réellement une photographie aujourd'hui de la vie de la musique ? Je suis pas tout à fait sûre. Je crois que c'est un petit peu le cul entre deux chaises. Parce qu'il y a à la fois une récompense commerciale, on le voit bien. Ne serait-ce que parce que les votes professionnels, moi-même je suis appelée à voter quasiment tous les ans en tant qu'auteur, compositrice, etc. Et effectivement, je fais comme les copains, c'est-à-dire qu'il y a des tas de domaines, je connais pas les gens, donc je vote pour ceux dont j'ai entendu parler. Et généralement, ceux dont on a entendu parler, on en a entendu parler à la radio, donc ils n'ont pas vraiment besoin, en plus d'une Victoire de la musique, pour faire connaître. Il y a quelque chose comme ça qui est un peu ambigu. Est-ce que c'est une récompense commerciale ou est-ce que c'est réellement une récompense artistique, etc. Je trouve que des fois, c'est un peu
entre les deux,
un peu bizarre. Par exemple, dans les interprètes féminines cette année,
Charlotte Gainsbourg, Louane, Catherine Ringer,
voilà,
étaient nominées.
Évidemment que si je vote, je vais voter Catherine Ringer, pour moi, qui mérite amplement d'être mise dans une sorte de piédestal, de panthéon de la chanson. Aujourd'hui, elle représente quelque chose d'énorme, une carrière assez impeccable en plus. Voilà, Louane est une jeune femme qui commence. on est avec quelqu'un qui débute, prometteuse certainement, et en face, dans la même catégorie, on a une femme qui a prouvé ce qu'elle était, qui a déjà fait sa carrière, son chemin, etc. Comment vous voulez choisir entre deux ça? C'est pas possible, c'est juste pas la même chose, me semble-t-il. Hein. Quand j'étais aux Victoires de la Musique, j'ai eu deux Victoires de la Musique, en fait, j'ai eu une révélation aussi. Oui, c'est pas grave. Mais je crois que c'était d'ailleurs...
Vous avez une révélation il y a quelques années, donc.
Oui, la révélation, c'était en 97 ou un truc comme ça.
Je suis peut-être pas remonté assez loin.
Ouais, c'est possible. C'est vieux, ça. Mais je crois que c'était en 97 où il y avait Ophélie Winter qui a eu une réaction assez impeccable puisque elle était nommée dans la catégorie artiste féminine en même temps que Barbara. Et donc elle n'est pas venue en disant on va pas me mettre en compétition avec Barbara. Enfin c'est ridicule. D'abord on fait pas la même chose. Ensuite Ophélie Winter était toute jeune à ce moment-là, débutait sa carrière. On peut pas comparer une carpe et un lapin. Enfin c'est ça va de cet ordre-là. Effectivement moi j'avais trouvé que sa réaction était tout à fait judicieuse et intelligente de dire je veux pas être dans cette compétition-là parce que c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas bien, c'est ni bien pour Barbara ni bien pour Ophélie Winter, bien entendu.
Dites Juliette, comment on fait pour ne pas se répéter en 30 ans dans une de vos chansons? Qui s'appelle « Dans mon piano droit », qui est la 12e et dernière de l'album, vous dites à un moment « Dans mon piano droit, il y a toujours une chanson qui dort ». C'est comme ça qu'on fait pour éviter de se répéter ?
Oui, je ne sais pas si c'est tellement un problème, l'histoire de se répéter. Est-ce que c'est important de ne pas se répéter ? Est-ce que si on se répète, ça ne veut pas dire qu'on a encore des choses à dire sur le sujet ?
Peut-être.
Vous avez des écrivains qui ont fait toute une carrière sur le même sujet.
Il paraît.
Ouais, il y en a, on en connaît, des prix Nobel, je crois bien. Et alors, est-ce que c'est grave en fait de se répéter? Est-ce qu'on n'a pas justement pas fini d'explorer le sujet et on a encore des choses à dire, donc disons-les.
Donc c'est pas un problème.
Non.
Même si vous vous répétiez, ce qui vous est sûrement arrivé,
oui,
ça ne serait pas un problème.
En plus, certainement, je sais qu'il y a des trucs qui traînent. Par exemple, dans le dernier album, j'ai écrit un vers. C'est dans Météo Marine que je dis un jour en bas, un jour en haut. Je l'ai déjà dit, ça. J'ai déjà écrit textuellement un jour en bas, un jour en haut. Dans le Madrigal moderne, qui était dans l'album No Parano, c'est pas si vieux que ça.
Certains exégètes sauront trouver du vers.
Oui,
et de la
parce qu'il est arrivé à ce moment-là, puis je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû le mettre dans l'autre parce qu'il est utile ici, mais après tout, pourquoi pas, c'est pas grave. C'est pas une répétition vraiment, c'est une autre utilisation, quoi.
Vous écrivez sur de très nombreux thèmes, des très nombreuses choses, de très nombreux sujets. Est-ce qu'il y en a sur lesquels vous n'écrivez pas? Vous savez que vous n'écrivez pas parce que ça ne vous inspire pas ou parce que vous n'avez rien à en dire? Et est-ce que c'est une question que vous pouvez vous poser parfois?
Oui, si je me disais, tiens, je vais écrire une chanson sur les petits pois, je suis pas sûre de trouver une inspiration démoniaque. Maintenant, non, je pense que les sujets auxquels on ne touche pas, c'est les sujets soit qui vous bouleversent trop, ce qui est, par exemple, une chose que j'ai éprouvée parfois, même en me disant, le premier qui dit que c'est pas difficile d'écrire, je lui mets ma main en travers de la figure. Parce qu'il y a des fois, c'est une souffrance, vraiment. Il y a des sujets, on peut pas toucher parce que c'est pas le moment, parce que ça remue des choses en vous qui sont bêtement sentimentales, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas être bien là-dedans parce que ça va être trop, pas digéré, on va dire, voilà. Exactement. Je sais pas comment expliquer ça, que quand j'écris, moi je suis touchée parce que j'écris. Oui, mes chansons, elles me font pleurer. Moi, je suis la première spectatrice, il y a des chansons qui me font pleurer, il y a des chansons qui me font rire, parce que je suis mon premier public et que je me dis, voilà, ça me touche parce que j'ai exprimé quelque chose. Le piano droit, par exemple, c'est une chanson que j'écris très vite, mais c'est une chanson qui m'a fait pleurer au début. C'est une chanson qui m'a mis les larmes aux yeux quand je l'ai écrite, parce que j'étais contente de dire ça. J'étais contente de dire enfin les rapports avec mon piano, de quand j'étais petite, de mon piano droit, de tout ce que ça comporte, de cette présence dans le couloir qui est toujours là, qui est le témoin de ma jeunesse, de mes débuts, et puis du annonage. Je fais exprès de mettre un H aspiré pour faire annon, la méthode de piano que les pianistes connaissent bien. Il y a des choses on écrit et puis on se dit j'exprime quelque chose que je sens vraiment profondément, alors ça me touche, ouais,
ça veut dire que ça part d'un sentiment, une chanson?
Ça peut ne pas partir d'un sentiment, mais ils finissent par arriver surtout. En fait, l'histoire du piano droit, c'est très ballot. C'est que on était en studio pour enregistrer l'album. C'est la dernière que j'ai écrite de cet album. Je l'ai écrite en studio quasiment. On a été très vite, ça a été plus vite que prévu, c'est-à-dire qu'on avait une dizaine de jours et on en a mis 5 ou 6 pour faire l'album, donc il restait du temps. Et au studio Ferber à Paris, il y a un piano droit en bas qui est magnifique, qui a un son formidable. Et je voulais absolument enregistrer une chanson avec ce piano. Puis, comme il me restait 2 jours, qu'on a passé le week-end tranquille, je me suis dit, lundi matin, j'arrive, soit j'ai une nouvelle chanson, soit j'en ai pas. On verra bien si ça marche ou pas. Et je me suis dit, je vais faire une chanson. Et donc, je vais faire une chanson sur un piano droit, puisque ça va être pour l'enregistrer sur un piano droit. Puis en fait, voilà, puis ça m'a ramené à mes souvenirs personnels. Et du coup, je me suis retrouvée émue par l'évocation de ce temps-là, quoi.
C'est quelque chose qu'on retrouve hein, sur l'ensemble de l'album, ce piano droit, non seulement dans cette dernière chanson, dans mon piano droit, mais aussi parce que c'est un ensemble de chansons, même s'il y a de l'orchestration. L'orchestration est en dessous du piano et de votre voix. Est-ce que c'est parce que vous vouliez quelque chose de plus intime, de plus personnel? On ne va pas toujours entendu avec aussi peu d'instrumentation, Juliette.
Ça, c'est beaucoup dû à Renaud Létang. Donc Renaud Létang qui réalise l'album en même temps que moi, qui est là, qui a fait le mixage également. Et dans le mixage, d'ailleurs, il a pris des décisions justement assez radicales de retirer beaucoup d'orchestres, de mettre beaucoup de piano devant. Il se trouve qu'on a enregistré dans les conditions de live, c'est-à-dire que je chante en même temps que je joue. Ce qui fait que la dynamique, elle est commune entre le piano et ma voix, puisque c'est la même personne qui en a la charge, à savoir moi-même. Et donc les musiciens sont à côté, ils jouent en vrai, en live aussi. Et donc on a une dynamique qui est particulière, parce que tout est basé sur ce piano et cette voix. Et au mix, ça se retrouve parce que justement, il a retenu, comme on dit, un petit peu tout le reste de l'orchestre pour qu'on ait d'abord cette impression de piano et de voix ensemble.
Si on en écoutait une.
Si vous voulez.
Allez, un extrait, à carreau.
Parmi mes signes distinctifs, ronde du cul, frisée du tif, il en est un qu'on ne peut rater. J'ai des lunettes sur le nez, chez les chanteuses, c'est assez rare. Et pour porter cet étendard, en vérité, je vous le dis, y a que moi et Nana Mouskouri. Depuis que je suis petite, je suis à carreau, j'écris le roman des Miro, des quatre yeux, des athélos, des petits têtards à hublot. Mais que m'importe qu'on se gonce, moi mes lunettes, je les chausse. Comme on chausserait ses chaussures pour s'en aller à l'aventure. Comme on chausserait ses chaussures pour s'en aller à l'aventure.
Une chanteuse à lunettes, etc., etc. Juliette, je la connais pas encore par cœur, cette chanson à carreaux, mais on vous reconnaît. C'est pour dire, et en plus à carreaux, attendez, je tourne le disque, c'est la deuxième chanson de ce titre. Procrastination est la première, parce qu'il fallait bien repousser à un moment.
Ben hein, oui, évidemment, c'est autres. Ça, exactement.
Bon, mais là, c'est pour dire qu'on est chez vous avec ce disque, c'est quelque chose de personnel, là encore, c'est un autoportrait, enfin.
Oui, puis c'était rigolo de partir de des choses qui me caractérisent, entre autres, qui me caractérisent, c'est d'avoir des lunettes et puis de les avoir gardées. Et puis, effectivement, un des dédicataires de cette chanson, c'est Frédéric Taddeï, parce que dans une interview, il m'a demandé « Mais Juliette, vous avez des lunettes ?» Et j'ai d'abord été surprise par cette question et en même temps, je me suis dit « Mais c'est vrai que c'est une question, en fait. » Dans les femmes publiques qui ne sont pas des politiciennes ou des journalistes, c'est-à-dire des gens qui ont le côté sérieux, il y a assez peu de femmes publiques qui portent des lunettes. Vous remarquerez ça. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Des femmes à lunettes. Alors, je réponds à la question des femmes à lunettes en ce qui concerne la libido et des rimes stupides qu'on peut faire avec lunettes un peu plus tard dans la chanson. Mais c'est vrai que d'un truc qui pour moi est naturel, je porte des lunettes depuis l'âge de 4 ans. Je m'aperçois qu'il y a des gens pour qui c'est un problème, par exemple. Ça, c'est rigolo. Quand on a 50 balais, on a les copains qui commencent à mettre des lunettes. Ils sont obligés. Et ils sont, mais malheureux, mais paumés, quoi. Et puis, en plus, ils les paument, les lunettes. Et puis, d'un seul coup, on a l'impression qu'on leur a retiré quelque chose parce qu'ils sont obligés de porter des lunettes. C'est drôle. Moi, ça me fait rire. Parce que depuis l'âge de 4 ans, j'ai des lunettes sur le nez. Donc, ma nature, ma vie normale, la vie normale pour moi, c'est de me lever le matin dans le flou. Et puis, hop, la première chose que je fais, c'est mettre mes lunettes. Et hop, le monde apparaît. Et de la même manière, le soir, je les enlève, je les pose, et ça y est, ça disparaît, le monde disparaît. Alors, je sais pas si on a un truc philosophique avec les porteurs de lunettes, faudra que j'en discute avec d'autres. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça. Pour moi, la normalité, c'est ça. C'est de, sans lunettes, je ne vois rien.
Bon, c'est la normalité, c'est une constante. Vous n'avez pas changé depuis l'âge de 4 ans de ce point de vue-là. S'il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas non plus changé, Juliette, c'est votre humour. C'est le fait que vous ne vous prenez jamais au sérieux. On l'entend sur vos chansons. C'est une constante. Est-ce que, au cours de ces 30 ans de carrière, malgré tout, il y a des choses, vous arrivez à regarder avec un peu de recul, un peu de distance, que vous avez fait et vous vous rendez compte que vous avez dans votre façon de travailler, dans votre façon d'écrire, dans votre façon de composer, puisque vous êtes auteur, compositeur et interprète, des choses qui ont changé chez vous?
Oui, sans doute, mais Peut-être parce qu'il y a des choses, j'ai décidé de les changer. Par exemple, parlons de la musique. Pendant très longtemps, j'ai, en tant que musicienne, me trouvais qu'il était dommageable que la chanson ne soit pas souvent traitée par des musiciens qui amèneraient ça vers quelque chose de plus complexe, avec des cheminements harmoniques, un petit peu surprenant, un petit peu tout ça. Et je crois que c'est pas son rôle à la chanson. La chanson, elle doit être simple. La chanson, elle doit. Il y a quatre accords et tout le monde doit pouvoir chanter.
Oui, quatre accords, vous y allez un peu fort. Il y a plus de quatre accords dans vos chansons quand même.
Oui, mais après, ça, c'est un petit peu pour mettre de la couleur. En fait, c'est un petit peu comme un peintre qui fera un joli dessin et puis s'il met de la couleur, c'est encore mieux. Mais le dessin reste joli, quoi. En fait, il faut qu'il soit assez costaud. Et donc, dans la composition elle-même, je me suis pas embêtée. Par exemple, vous parliez de procrastination. Procrastination, il y a vraiment deux accords. Quasiment tout du long. Et je me suis pas forcée à faire ça. Au contraire, j'étais partie dans un truc très compliqué, tout ça. Mais je me suis dit, mais non, mais c'est ce que je suis en train de faire, quoi. C'est procrastination. Donc tu vas pas en plus compliquer la chose, puisque tu es en train de reporter au lendemain. Alors reporte au lendemain ton chemin harmonique, et puis fais-nous deux accords, et ça ira bien comme ça. Donc il y a des tas de questions qu'on se pose. Pour ça, quand on écrit, je pense que de ce côté-là, j'ai changé. Je pense que j'aime la vertu de la chanson qui se chante facilement.
Qu'est-ce qui s'est passé pour Météo Marine ?
Ils ont arrêté la Météo Marine
sur les ondes de France Inter.
De France Inter et un petit peu après sur les grandes ondes, mais je crois que maintenant c'est même plus du tout sur les grandes ondes. Bah oui, c'est ça.
C'est pour ça que cette chanson est dédiée à Marie-Pierre Planchon, qui est encore sur France Inter,
absolument,
mais qui ne fait plus la Météo Marine. Elle fait la météo tout court.
Figurez-vous, je l'ai rencontrée cette semaine et j'en suis tout à fait ravie. Je la connaissais pas.
Ce n'est qu'un jour, comme ça. On dit ça va, mais ça va pas. Un jour à rien, un jour à spleen, un jour à météo marine. Et j'attends là où l'est le grain, en allant pêcher du chagrin. Viking et cire et Cromarty dans le flot des rues de Paris. De grands frères, en cours ou prévu, le fond de l'air est frais, mon petit cœur tout nu. Quand on ne pleure jamais, c'est qu'on s'habitue. À vie de grands frères, en cours ou prévu.
Vous disiez, Juliette, que certaines chansons font rire, d'autres font pleurer. Là, on est plutôt dans le deuxième cas de figure. Si on se laissait aller ce matin, on va essayer de garder le sourire. C'est vrai que dans l'ensemble, cet album, J'aime pas la chanson, est plutôt mélancolique. Même si vous avez pris soin d'alterner les chansons dites plus tristes avec des chansons dites plus gaies. Mais c'est fait pour ça, une chanson, émouvoir? Ou c'est aussi fait parfois
mais
pour le rire, réfléchir?
Le rire est une émotion, hein, quand
oui,
même.
Oui, c'est pour ça. Absolument. Oui, oui. Émouvoir dans les deux sens.
Absolument dans les deux sens. Puis des fois, même au même moment, par exemple, une chanson comme Macaro, qui peut être perçue comme une chanson amusante parce que je rigole de Nana Mouskouri et moi, et puis je parle des femmes à lunettes et tout ça, donc ça pourrait être une chanson drôle. Mais en fait, pour moi, c'est une chanson, d'ailleurs c'est pareil, c'est une chanson qui m'a beaucoup émue quand je l'ai écrite, et notamment à cause de la fin. Parce que quand je me suis projetée comme mécréante qui se fout de ce qui va se passer après sa mort et qui dit même si je repose au Panthéon et j'ai trouvé cette rime à lunettes, j'en ai eu des frissons pendant un moment. C'est con de dire ça, mais je vous assure, ça m'a vachement émue de dire voilà, même si je repose au Panthéon ou mieux sous la plage de Sète, laissez-moi garder mes lunettes. La plage de Sète, moi, pour moi, cette trouvaille, c'est une trouvaille et un hommage à Brassens, bien sûr. Ça a été un truc, je me suis dit, mais non, mais c'est trop joli, quoi. C'est des choses, et c'est tellement ce que je veux dire. C'est pas grave, le Panthéon, on s'en fout. Mais par contre, moi, c'est mes lunettes, quoi. Laissez-les moi. On sait jamais si on se réveille, je voudrais voir quelque chose. Au cas où, c'est une précaution. C'est le pari de Pascal, en fait. J'ai fait un pari pascalien en me disant, mais c'est vrai, en plus, j'ai exactement pensé à ça. J'ai pensé au pari de Pascal. J'ai dit, au cas où, laissez-moi mes lunettes. Au cas où ça existe, la vie après la mort, au cas où. C'est ça que ça raconte. Donc, vous voyez, un peu, on va loin.
Alors, j'essaie de trouver une rime avec loin, parce que c'est peut-être plus facile que lunettes, parce que comme il est 7h30 et pas 7h37, c'est un peu difficile de trouver une rime avec les lunettes. Allez, il est 7h30 sur France Culture. On vous retrouve dans 2 minutes, Juliette. Merci de rester avec nous. Et les titres de l'actualité sont présentés par Camille Magnard.
Combien sont-ils? 128, rien qu'à Paris, sans doute beaucoup plus. Ces mineurs étrangers isolés que l'État français devrait protéger, mais qui sont livrés à eux-mêmes en cette période de grand froid. Hier, un collectif d'avocats alertait le procureur de la République de la capitale sur l'abandon coupable de notre pays. Ce sera le dossier de notre journal de 8 heures. On est dans une trêve, pas encore dans le rêve d'une réconciliation durable entre les deux Corées. La formule est à mettre au crédit du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en Corée du Sud, hier pour l'ouverture des JO d'hiver. Et donc pour cette poignée de main historique entre le président du Sud et le chef d'État du Nord, Kim Jong-un n'a pas fait le déplacement, mais il a envoyé sa sœur à Séoul. Au moment où l'ONU se propose de négocier une trêve de 30 jours dans les combats en Syrie, des missiles israéliens ont frappé cette nuit des positions iraniennes. Côté syrien, Tel Aviv dit avoir répondu à l'incursion dans son espace aérien d'un drone iranien et l'armée syrienne, de son côté, affirme avoir abattu au moins un avion de Tsahal avec ses batteries anti-aériennes. Et dans une demi-heure reportage dans la ville israélienne d'Ashdod, symbole de laïcité et de cohabitation entre religions, et pourtant là-bas c'est la guerre du Shabbat qui fait rage autour d'un centre commercial qui refuse de respecter la fermeture rituelle du samedi. Retour à Macerata, également la petite ville du centre de l'Italie a vu il y a une semaine un militant d'extrême droite ouvrir le feu sur un groupe d'immigrés africains faisant 6 blessés. Aujourd'hui des centaines, peut-être des milliers d'antiracistes veulent manifester sur les lieux malgré l'interdiction du maire. Manifester contre la montée du discours et des actes xénophobes dans la campagne législative en Italie. Dans le journal de 8 heures, enfin, nous entendrons le rappeur Aurel San, grand vainqueur des 33e victoires de la musique. L'ex-enfant turbulent et misogyne du rap français accède à une respectabilité qu'il semble apprécier. Vous l'entendrez donc dans un peu plus d'une demi-heure.
Eh bien, à tout à l'heure, Camille Magnard, 8 heures. À suivre dans la prochaine demi-heure, la suite de notre entretien avec la chanteuse Juliette et à 7h40, la fabrique médiatique sur l'affaire Hulot. En est-ce bien une et fallait-il la publier? Nous entendrons Patrick de Saint-Exupéry, cofondateur et directeur de la rédaction du magazine Hebdo, et Laurent Geoffrin, directeur de la publication et de la rédaction de Libération.
Vous avez manqué le meilleur sur France Culture? Avec la session de rattrapage, recevez chaque samedi matin dans votre boîte email l'essentiel de la semaine écoulée. Idées, culture et savoir, architecture, histoire, sciences et cinéma, fiction, politique ou art plastique, une sélection d'émissions et d'articles pour comprendre, apprendre et découvrir. Abonnez-vous gratuitement à la session de rattrapage sur le site franceculture.fr.
On retrouve Juliette, notre invitée de ce matin, auteure, interprète, compositrice, pour cet album qui vient de sortir hier, c'est tout jeune dans les bacs, J'aime pas la chanson. Oui, alors je voulais vous demander d'ailleurs, ce titre, c'est quoi ce titre, J'aime pas la chanson? C'est quelque chose que vous répétez depuis longtemps, J'aime pas la chanson?
Oui, parce que c'est souvent provocation. Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, parce que je pratique une chanson assez, on va dire, exigeante. Pour dire un mot comme ça, qu'on dit beaucoup aujourd'hui. Parce que, voilà, il y a du texte qui est assez prééminent, il faut bien le dire. Que
de, c'est la mélodie, exigeante,
de la mélodie
également.
De la mélodie, bon, voilà. Et donc, on s'inscrit comme ça dans une tradition de chansons françaises, à texte. Et puis, à chaque fois qu'on parlait de ça, moi, j'ai toujours répondu, mais de toute façon, moi, j'aime pas ça, la chanson. Mais c'était par boutade. Et aussi parce que je pense depuis longtemps que la chanson, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a les chansons, si vous voulez, mais la chanson ou la chanson française. Moi, la chanson française, la chanson chantée en français. Et là-dedans, dans cette espèce d'énorme vivier de chansons dont on comprend les paroles, eh ben, il y a des choses très différentes. Il y a des choses de divertissement, il y a des choses de délassement, il y a des choses où on a envie que la personne nous parle à l'oreille, nous dise des mots d'amour. Il y a de la chanson pour tout le temps, pour tous les goûts, pour tous les moments de la journée. Et puis, il y a des choses qu'on a le droit de pas aimer. Donc, c'est un peu comme si vous disiez « Ah, moi, j'aime la littérature ». Moi, j'aime la littérature. Enfin, non, j'aime pas la littérature. Il y a des romans que j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime pas. Je me ferais pas lire une biographie de Napoléon. Je m'en fous complètement. C'est pour moi pas de la littérature. Pourtant, ça en est. Il y a des romans policiers que je trouve absolument plus intéressants que des romans sociologiques écrits par des penseurs profonds. Je suis pas pour la classification. Et donc, dans la chanson, encore moins.
La chanson française, pour reprendre votre accent, n'a pas de sens, Juliette. Est-ce que la chanson populaire en a un?
Mais la chanson, c'est populaire.
Et, oui.
La chanson est populaire. La chanson, quoi qu'il arrive, elle est populaire. Léo Ferré, c'est populaire. Jean Ferrat, c'est populaire.
Aujourd'hui,
Brassens,
il reste de la chanson populaire
sûr,
aujourd'hui,
évidemment,
à part vous.
Évidemment que c'est populaire, la chanson. Mais Loane, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Il ne faut pas qu'il y en ait. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait. Est-ce qu'on pourrait arrêter avec ça un jour de dire ça, c'est bien, c'est le bon goût, ça, c'est formidable. Et puis ça, c'est pas bien. Ça n'est pas bien, n'a pas le droit. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête avec ça et que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre un peu partout en disant tiens ça me plaît ça. C'est la curiosité qui donne ce résultat là de dire Il n'y avait pas de raison que je rencontre cette chanson dans ma vie. Et pourtant, ben voilà, je l'ai rencontrée. Elle m'a touchée à un moment. J'ai ancré des choses dessus et ça sera un bout de ma vie. On a tous ça dans la vie. Des moments, on est accompagné. En général, des chansons à la con, faut bien le dire. C'est ça qui est drôle.
Juliette, dans cet album, J'aime pas la chanson, il y a 12 titres, parmi lesquels, si je ne m'abuse, un titre qui est une reprise, ou plutôt un réenregistrement. Cette chanson, c'est Aller sans retour. Vous l'aviez enregistrée une première fois il y a 10 ans dans Bijoux et Babioles. Pourquoi l'avez-vous reprise aujourd'hui? C'est une chanson qui parle des migrants.
Oui, ça s'appelle Aller sans retour, ça parle effectivement des migrants. C'était un point de vue assez particulier, puisque je me mets à la place de quelqu'un qui est obligé de partir de chez lui, et sans doute de manière définitive, puisque c'est un aller sans retour. Et en fait, ce qui m'a intéressé à l'époque où j'avais écrit cette chanson, c'est le moment où j'ai débloqué la situation, parce que je me suis dit, je vais arrêter de faire ça, c'est pas bien. Je ne peux pas parler à la place d'un migrant, je ne suis pas migrante. Mais en même temps, je me suis dit, bah justement, c'est ça le sujet de la chanson, c'est que je vais parler parce que je peux imaginer ce que c'est, et que je les vois, et que c'est juste un jeu peut-être assez triste, mais le simple fait de se dire, tiens, si je me mettais à leur place 5 minutes, qu'est-ce que j'en penserais de la situation en question? Donc c'est le point de vue de départ de la chanson. Il se trouve que j'écris ça il y a une dizaine d'années, et puis je la ressors aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup l'arrangement qu'on en a fait, en fait, scéniquement. Je le trouve, voilà, il me correspond mieux. J'aime bien, moi, réenregistrer des chansons. C'est-à-dire que c'est vivant, que ça peut évoluer, ça peut bouger. Et puis, je constate, effectivement, que malheureusement, j'ai écrit cette chanson il y a 10 ans et que le sujet est toujours valable, quoi.
Juliette, vous aimez pas la chanson, mais est-ce que vous y croyez? Autrement dit, est-ce que les temps ont changé? En 30 ans, le monde a été bouleversé, mais est-ce que vous croyez aux vertus politiques ou pédagogiques même de la chanson?
Non. À vrai dire, non. Parce que je pense pas que ça puisse être quelque chose, et les chansons en général, et l'art en particulier, qui doivent impérativement toucher tout le monde de manière à ce que ça puisse provoquer un bouleversement historique ou politique. Je n'y crois pas une seconde. Maintenant, que cette chanson soit la photographie d'une époque, c'est possible. Que la chanson soit un signe de ralliement pour certaines personnes, non seulement c'est possible, mais c'est déjà arrivé un certain nombre de fois. Donc voilà, la chanson est un étendard, la chanson est un drapeau, mais ça n'est pas en tout cas, à mon avis, ce qui va changer le monde. Mais c'est le drapeau, parfois.
Juliette, vous avez très gentiment accepté redonner quelques notes.
Mais parce qu'il y a un piano.
Et en plus, alors il n'est pas droit, c'est un piano à queue dans le studio 108.
C'est un piano bourgeois.
C'est un piano à queue. J'espère quand même que ça ne va pas vous empêcher d'aller vous installer au piano. Et on a commencé avec les Victoires de la musique qui ont eu lieu hier soir. Hier se sont ouverts aussi les Jeux Olympiques d'hiver. Alors le sport dont vous allez nous fredonner quelques notes de musique n'est pas dans les Jeux Olympiques, mais malgré tout,
surtout pas d'hiver, les pauvres.
Surtout pas d'hiver. Vous aviez malgré tout envie de nous interpréter quelques notes donc et quelques vers de C'est ça le rugby qui fait partie de votre album. Je vous laisse vous installer.
Allez, d'accord. Quand l'équipe de Perpignan s'en va jouer à Montauban, elle est battue, évidemment, par l'équipe de Montauban. Mais quand l'équipe de Montauban s'en va jouer à Perpignan, elle est battue, c'est évident, par l'équipe de Perpignan. Honneur au fort, c'est la loi du sport. Vas-y petit, c'est ça le rugby. Quand l'équipe de Perpignan s'en va jouer à Montauban, ils ont grosse évidemment quelques filles de Montauban. Mais quand l'équipe de Montauban s'en va jouer à Perpignan, ils ont grosse, c'est évident, quelques filles de Perpignan. Alors au fond, c'est la loi du sport. Vas-y petit, c'est ça le rugby. Et après il y a tout le reste.
Merci beaucoup Juliette, merci. J'espère que vous allez donner toute cette énergie à tous les gens qui viendront vous voir en concert, puisque la suite est sur cet album, mais pas seulement sur l'album. En tournée, vous serez dès ce soir au théâtre de Corbeil-Essonne, le 14 à la Fnac Saint-Lazare à Paris, le 16 au Cratère scène nationale d'Alès, etc., etc.
Et le 12 avril à la salle Playel
à Paris, dans la capitale. Merci beaucoup Juliette.
Merci Caroline, c'était un plaisir.
Partagez.